Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Georges Cormes, vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages d'histoire, d'économie et de livres également consacrés à la question du développement. Une grande partie d'entre eux sont sans cesse réédités depuis 30 ans. Vous êtes économiste, vous avez été consultant auprès d'organismes internationaux et de banques centrales. Vous avez été ministre des Finances au Liban de 1998 à 2000. Actuellement, vous enseignez la coopération économique internationale et les finances publiques à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Le bassin méditerranéen, le Proche-Orient arabe, constituent le terrain privilégié de vos réflexions, sans compter le cadre, l'échelle de l'incontournable mondialisation. Vous éclairez les épicentres des fractures imaginaires entre les cultures, dans le temps et dans l'espace. Qui êtes-vous, Georges Cormes ? Un intellectuel ? Un écrivain, vous avez publié un roman, un théoricien, un homme politique, un professeur d'université, un penseur. Ce n'est pas tout à fait commun qu'un économiste domine la question des identités culturelles du monde contemporain. Parmi vos ouvrages, citons « Le Proche-Orient éclaté », presque un de vos classiques réédité depuis très longtemps. « Le Proche-Orient éclaté », dont la dernière édition date de 2006 et qui fait le tour de l'histoire de cette région du monde de 1956 à 2006. Un autre de vos ouvrages, « Le Liban contemporain, histoire et société », « La Méditerranée, espace de conflit, espace de rêve », un très beau titre. Georges Cormes, comme je le disais, a publié aussi un roman, « La Mue ». Alors Georges Cormes, vous êtes peut-être avant tout un pourfendeur de ces a priori, de ces clichés qui peuvent conduire aux grandes déflagrations de l'histoire, à celles qui mettent la paix du monde en danger. Georges Cormes, bonjour et bienvenue à Canal Académie pour nous parler aujourd'hui de votre livre « L'Europe et le mythe de l'Occident », sous-titre « La construction d'une histoire », publié en mars 2009 aux éditions La Découverte. Un livre qui s'inscrit dans une réflexion amorcée dans deux précédents ouvrages, « Orient-Occident, la fracture imaginaire », c'est un livre en 2002 écrit au lendemain du 11 septembre, et puis « La question religieuse au XXIe siècle », un autre de vos livres dont le sous-titre était « Géopolitique et crise de la modernité ». Alors Georges Cormes, bonjour.
Bonjour.
Le livre « L'Europe et le mythe de l'Occident » nous réunit aujourd'hui. On ne peut qu'inviter nos internautes, nos radionautes à vous lire pour s'en faire une idée plus juste. Alors pour commencer, comment ce mot d'Occident, porteur d'espérance humaniste, est-il devenu cette frontière de l'esprit qui occupe vraiment l'ouvrage ? Et pourquoi l'Europe, ce petit continent aux peuples si divers, si variés, comme vous dites, a-t-il donné naissance à ce concept ? Alors, est-ce que vous pourriez revenir sur la polysémie de ce terme ?
C'est un terme qui a connu d'ailleurs des usages très différents au cours de périodes historiques. On a tendance aujourd'hui, plus que jamais, il est opposé à un Orient, non plus à l'Orient extrême, à un moment on a eu le péril jaune, n'est-ce pas, mais à l'Orient moyen qui est identifié avec l'islam de façon assez abstraite. Et le paradoxe ici, c'est qu'au fond, cette notion d'Occident, elle est née à partir du moment où à la fois l'Empire romain se casse en deux et l'Église chrétienne se casse aussi entre l'Église de Constantinople et l'Église de Rome. Et donc, c'est très paradoxal qu'au fond, une cassure qui est intervenue au sein d'un même bloc civilisationnel, au plein sens du terme, politique, religieux, linguistique, culturel, qui était l'Empire romain, aujourd'hui sert, et depuis pas mal de temps d'ailleurs, à isoler l'Europe du reste du monde, à lui donner une spécificité unique par rapport à l'histoire de tous les autres continents et de tous les autres peuples. Et c'est souvent ce qu'on appelle une frontière de l'esprit qui s'est créée, qui vise en fait à gommer la magnifique diversité du continent européen, qui est un continent de la multiplicité des cultures, beaucoup plus que d'autres. Et il n'a plus aujourd'hui que des fonctions, malheureusement, géopolitiques.
Vous dites que ce concept, c'est vidé de sens.
C'est totalement vidé de sens. Bon, il a joué un grand rôle au 19e et 20e siècle. À mon avis, il a été fauteur des deux guerres intra-européennes lorsqu'il avait un sens dans le clivage profond qui traversait les cultures européennes. à partir de l'ère romantique et après la Révolution française, on va avoir deux Europes politiques. Une qui est révolutionnaire, démocratique, qui promeut ce qu'on va appeler la civilisation individualiste de l'Europe, encore que je n'y crois pas beaucoup. Et puis l'autre qui est en réaction à la Révolution française, à la philosophie des Lumières qui a précédé la Révolution française, et où l'Allemagne se voit au centre de cette autre Europe comme gardienne des valeurs traditionnelles, religieuses et mystiques, et de hiérarchie sociale, et de stabilité, de l'ordre, par rapport à ces démocraties qui naissent, qui sont anglaises, qui sont françaises, et qui dérangent cette autre partie de l'Europe, ou cette autre partie de l'opinion politique européenne, qui s'est mise en place avec le clivage Révolution française. On a eu la Sainte Alliance, d'ailleurs, contre la Révolution française. Et il y a un très bel ouvrage d'un de mes anciens professeurs de sciences politiques, qui est un ouvrage de relations internationales européennes, de la Sainte Alliance au Pacte Atlantique. Et donc, moi, j'ai beaucoup aimé cette filiation, Sainte Alliance et Pacte Atlantique, sur laquelle, finalement, aujourd'hui, se greffe une frontière redoutable, hein, qui est nous, les Occidentaux, eux, les musulmans, eux, les orientaux. Et j'ai découvert au cours de mon existence que ces frontières de l'esprit, et c'est un terme que j'emprunte à un professeur français qui s'appelle Marc Crépon,
oui,
qui a fait un ouvrage très beau, qui m'a beaucoup inspiré, qui s'appelle « Géographie de l'esprit ». Oui, j'en parle beaucoup, moi. J'aime beaucoup payer mes dettes intellectuelles.
Oui, c'est un remarquable ouvrage qu'on se promène d'auteur en auteur. C'est très précis, bien appuyé.
Oui, c'est très précis.
Et en hommage aussi, oui, sur ces découvertes de l'esprit.
Alors, je le fais d'autant plus volontiers, d'abord parce que l'honnêteté, pour moi, est une valeur clé. Mais deuxièmement, comme je me suis fait accuser par des esprits chagrins sur mes précédents ouvrages d'être anti-occidental, puisque je suis libanais, etc. Mais ici, je tiens à m'appuyer, n'est-ce pas, sur des auteurs. Et moi, chaque fois qu'on me critique, je dis, écoutez, j'aime beaucoup la critique, elle est très utile à un auteur. S'il y a des faits qui sont faux, s'il vous plaît, signalez-les-moi, je vais corriger tout de suite. Quant aux opinions, lorsqu'elles sont appuyées sur des textes et que j'en tire des conclusions de ces textes, excusez-moi, vous ne pouvez pas me le reprocher. Allez vous en prendre aux auteurs que je cite.
Donc là, il y a énormément de références hein, sur, à la fois, que ce soit des historiens français ou anglo-saxons ou allemands, des écrivains, des philosophes, des sociologues. Bon, on ne va pas tous les citer, ce serait impossible, mais c'est effectivement très référencé. Ces notions d'Orient et d'Occident, on a présenté le cœur de ce livre, vous les dénommez des méga-identités.
Moi, je fais beaucoup, dans cet ouvrage comme dans les précédents, je lutte contre la confusion des concepts.
Oui.
Parce qu'aujourd'hui, dans le langage courant, journalistique, même parfois dans des thèses de doctorat ou chez des présidents de jury, on emploie indifféremment le mot culture, religion, civilisation, nation. Alors que la langue française, et c'est pour ça que je l'aime et que j'aime écrire en français, c'est la langue de la précision. Et donc, les concepts ne sont pas interchangeables, les mots ont des sens différents. Mais si vous voulez, quand j'ai parlé de méga-identité, occidentale comme orientale, parce qu'au fond, on ne pourrait même pas concevoir l'existence d'un Occident s'il n'avait pas son frère jumeau opposé, qui est l'Orient. Donc sans Orient, il n'y a pas d'Occident, n'est-ce pas ? Et sans Occident, il n'y a pas non plus d'Orient. Et donc je dis, c'est des espèces de méga-identités qu'on a mis en place au cours, un petit peu aussi avec les débuts de la colonisation. Je vais un peu plus dans le détail dans le
mois.
Mais si vous voulez, aujourd'hui, cette méga-identité...
Après la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, alors c'était la lutte contre l'Union soviétique. L'Orient, c'était l'Est. On disait l'Ouest et l'Est. La confrontation Est-Ouest. Hein. Aujourd'hui, ça s'est déplacé puisque l'URSS a disparu. Encore de temps en temps, il y a des accès de fièvre à propos de la Russie. Mais si vous voulez, elle est méga dans la mesure où elle prétend se surimposer aux identités de peuples très, très différents. Si vous voulez, je vais prendre l'Orient d'abord.
Oui.
On ne peut pas confondre un Turc, un Iranien et un Arabe. Pas plus qu'on peut confondre un musulman indien, ethniquement indien, qui parle une des langues du sous-continent indien. Ça n'est pas la même chose. Donc, si vous voulez, là aussi, une méga-identité arabo-musulmane, à mon sens, ne veut absolument rien dire. Mais une méga-identité occidentale qui vous met le Norvégien, avec l'italien, avec l'espagnol, avec l'allemand, avec l'australien, le nouveau-zélandais et l'américain du Nord. Et puis on a toute la zone grise, les latino-américains, où sont-ils? Les japonais, qui sont très proches de l'Occident, où sont-ils? Pour moi, tout ça, le terme méga-identité est un terme à qui je veux donner une connotation négative, parce qu'on essaye d'annuler l'identité réelle des groupes humains, des sociétés. C'est complètement anormal, et c'est pour ça que ça sert toujours à des projets de puissance géopolitique. Et ça ne sert pas du tout à valoriser, bien au contraire, la diversité culturelle. Et moi, quand j'entends que l'Europe, qui a eu ces énormes cultures allemandes, françaises, italiennes, bon, les cultures scandinaves aussi, qui sont très importantes, bon, elle va se résumer à des valeurs de l'Occident et elle va se résumer à un judéo-christianisme dont on ne comprend pas très bien ce qu'il veut dire, dans la mesure où la relation a été conflictuelle entre ces deux grandes religions. Et puis jusqu'à il y a 30-40 ans, les racines de l'Occident, on disait, elles sont gréco-romaines. On a glissé aux racines judéo-chrétiennes avec une rapidité tout à fait extraordinaire. Et c'est aussi quelque chose qui devrait faire l'objet d'un peu plus d'analyse pour comprendre. Parce que pendant, enfin, pratiquement depuis la Renaissance en Europe, quand on invoque des racines communes, ce sont celles gréco-romaines de la civilisation grecque et de la civilisation romaine. Et alors, très curieux.
Tout le début de l'ouvrage, les premiers chapitres sont consacrés justement à cette recherche dans l'histoire, oui, de la construction de ce concept. Et puis après, vous rentrez dans l'analyse du discours occidentaliste dans lequel on va rentrer un peu plus loin.
Ce qui est extrêmement paradoxal, nous revenons au paradoxe, c'est qu'au fond, la synthèse gréco-romaine, c'est l'Empire byzantin qui l'a réalisé. Et l'Empire byzantin, il est totalement sorti du champ identitaire européen. Même dans les manuels d'histoire.
Vous même chez Ernest Renan, vous dites.
Ah oui,
là, c'est le...
Non, mais c'est le plus grand trou de mémoire des Européens. Il y a une espèce de mémoire traumatique.
7 siècles de christianisme, de Byzance, on va dire. Et puis tout le christianisme.
Vous avez 10 siècles de christianisme byzantin. Ça a été un énorme empire.
Et le christianisme orthodoxe.
Après, vous avez le christianisme
oriental.
Slave, oui. Mais si vous remarquez la frontière imaginaire de l'Europe, elle a abouti à briser la Yougoslavie. On a séparé les orthodoxes des catholiques croates et slovènes, et évidemment du petit groupe de musulmans bosniaques qui sont ethniquement slaves. Moi, je trouve que c'est des politiques du pire, c'est des politiques un peu de la folie. Alors, vous êtes avec cette méga-identité supérieure qui se surimpose, et on aboutit alors à briser d'autres identités communes évidentes, c'est-à-dire que les Yougoslaves se définissaient comme des Serbo-Croates, ils avaient une langue commune, ils avaient un vivre ensemble depuis des siècles. Bon, l'élément albanais était beaucoup plus hétérogène, je le reconnais, mais enfin, ils vivaient aussi avec les Albanais depuis des siècles et des siècles. Et je suis d'autant plus sensible à cela que, heureusement, mon pays, le Liban, il y a eu beaucoup de tentatives de le briser sur des lignes communautaires. Et nous avons résisté, nous sommes sortis indemnes. Et souvent, je dis, par rapport aux Yougoslaves, nous avons eu beaucoup de chance. Mais on a essayé aussi de faire de nous des peuples différents. Et alors là aussi, on confond la notion de peuple avec la notion de communauté religieuse. C'est aberrant. Lorsque vous parlez la même langue, vous mangez la même cuisine, vous écoutez la même musique, vous avez les mêmes poètes, parler de cultures différentes au Liban est une aberration. Et pourtant, c'est entré dans le langage commun. Le Liban, pays de la diversité culturelle. Non, on peut dire le Liban, pays de la diversité religieuse, oui. Mais ce n'est pas du tout la même chose. La diversité religieuse est très différente de la diversité culturelle, même s'il peut y avoir quelques points de passage.
L'idée qu'on a de l'Occident s'est confondue et se confond encore avec la modernité, avec la puissance économique. Les explications, les thèses habituellement données à ce propos ne vous satisfont pas.
Il y a un problème qui m'a tourmenté à moi, mais a tourmenté tous ceux qui se sont occupés de développement économique, qui était de se dire, mais enfin, qu'est-ce qui a fait cette puissance qu'ont acquis les nations européennes, notamment à partir de la Renaissance? On peut faire partir d'ailleurs toute la mondialisation de Christophe Colomb et de la découverte par les Européens du continent américain. Et vraiment, d'ailleurs, en économie de développement, c'est une question centrale. C'est quoi le secret du développement? sans parler de, bon, quelle est la qualité du développement, qu'est-ce que donne le développement, toute la critique que l'on peut faire de l'idée elle-même de développement. Mais là, je ne voudrais pas rentrer dans ce cas, c'est quelle a été l'alchimie qui a fait que l'Europe, continent pauvre, petit, qui n'a pas de possession, de vastes possessions, parce que même l'empire de Charlemagne, finalement, comparé aux grands empires d'Orient ou de Chine, ou au califat abbasside ou omeyyade, qui s'étendait sur plusieurs continents, mais c'est rien, c'est une tasse de café. Comment cela s'est fait? Vous avez eu plusieurs types d'explications. Le type d'explication qui a été très courant quand je faisais mes études à Paris, il y a plus de 40 ans maintenant, mais qui ne m'a jamais convaincu, c'est de dire « Ah, ça a été l'exploitation impérialiste de l'Europe ». Non. Il y a eu la thèse opposée à celle du marxisme, qui était celle de Weber, qui me convainc pas du tout non plus. L'esprit du protestantisme. Il y a quelque chose dans la version protestante de la religion chrétienne qui a donné cet esprit d'entreprise et qui a permis la transformation de l'Europe en pays industrialisé, en capitalisme industriel très efficace. Je n'y crois pas du tout non plus. C'est de l'ordre totalement mythologique. Encore plus mythologique la version marxiste. Mais dans la version marxiste, on peut dire oui, il y a eu pillage des colonies qui ont pu alimenter la prospérité. Mais là aussi, cette thèse marxiste trouve des limites très vite. Parce que l'Espagne, qui a pillé le continent sud-américain, s'est inondé d'or lui-même, est devenu le plus paresseux par la suite, sur le plan industriel, des pays européens. Donc,
à la fin du 19e siècle.
Oui, c'était un des pays les plus en retard avec l'Italie du Sud. Donc la thèse marxiste, là aussi, ne tient pas. De même que la thèse weberienne n'a aucun sens, parce que vraiment le grand capitalisme d'entreprise, il s'est mis en place avant l'apparition du protestantisme, notamment Venise, Gênes, le sud
grandes
de l'Italie,
les
grandes cités marchandes, des grandes entreprises,
en relation avec
les premières
celle du
sociétés
Nord,
anonymes.
De l'Europe du Nord.
Et puis, c'est monté à l'Europe du Nord après. C'est-à-dire toute la thèse que c'est le protestantisme qui a permis l'éclosion du capitalisme européen, bâtisseur d'industrialisation, ne tient pas la route. Elle est totalement imaginaire, mythique.
L'Europe, dans les discours qu'elle a élaborés sur sa propre identité, s'est donné plusieurs moments fondateurs. La période des croisades est l'un des plus connus.
Alors, moi, je pense que les germes qui ont fertilisé l'Europe, alors à la différence du discours occidentaliste pur et dur, nous, l'Occident, depuis le temps des Grecs ou des Romains, ou depuis le temps de Moïse, enfin, il y a plusieurs moments fondateurs,
voilà.
On pourra en reparler dans l'imaginaire.
Bien sûr.
Le développement des différentes cultures européennes, parce que je ne parle pas de développement de l'Europe, c'est très inégal suivant les régions tout le temps, a été énormément fertilisé par le contact de cultures. Lequel commence avec les Grecs et les Romains. Les Grecs, alors là aussi, que la culture européenne moderne s'est totalement appropriée, l'hellénisme est oriental, l'hellénisme n'est pas occidental. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure avec l'Empire byzantin. L'Europe s'est appropriée, le miracle grec, comme si le miracle grec n'était pas aussi la résultante du contact des Macédoniens, des grands philosophes, de Platon et d'autres, avec toutes les vieilles philosophies sumériennes, babyloniennes, pharaoniques, etc. Bon, donc là, il y a un premier rapt, n'est-ce pas, d'une culture qui a irrigué l'Europe, effectivement. Bon. Rome elle-même s'est frottée aussi à tous les peuples d'Orient, a beaucoup pris des peuples d'Orient. Et par la suite, les Arabes en Espagne, c'est aussi un contact avec une culture qui avait acquis, alors, autre miracle, là, en un siècle et demi, une stature tout à fait exceptionnelle, parce qu'elle avait elle-même été puisée à Byzance, chez les Perses-Sassanides, aux Indes, dans les vieilles civilisations syriaques et araméennes. Et donc, elle a fait aussi. Et donc, j'en viens à une thèse où je suis de plus en plus convaincu. La force d'une civilisation, au sens large du terme, c'est son aptitude à pratiquer le contact des cultures. Et je pense que l'Europe... Alors, vous avez eu les missions chrétiennes. L'appui missionnaire que je montre, la pulsion missionnaire qui fait envoyer vers le 10e, 11e siècle des envoyés du pape jusqu'en Asie centrale. Puis nous aurons au 16e siècle l'expérience des jésuites en Chine. Ah, cette pulsion missionnaire est extraordinaire. Ça a été un véhicule de contact de culture tout à fait exceptionnel. Et donc, moi je pense que ce qui va faire la force future de l'Europe, c'est ce contact des cultures. Puis quand il y a les croisades, c'est un autre. Alors, bon, contact très violent, un choc. Mais si vous voulez, il y a pendant, de nouveau, bon, il y a eu déjà en Espagne une grande expérience de coexistence, d'interaction de culture. Il va y avoir, dans l'Orient qu'on aura appelé latin, l'Orient des croisades, il y a continuation de ce contact de culture avec des sociétés plus raffinées, plus riches, plus qui sont celles du Levant musulman, devenu musulman. Encore qu'il y a le nombre de chrétiens, tout le monde l'oublie, le nombre de chrétiens qui restent chrétiens sous protection musulmane est très impressionnant. Et ce nombre ne va baisser en flèche qu'avec les interventions des puissances européennes pour démembrer l'Empire ottoman qui va provoquer d'affreux massacres parce qu'on va se prendre des clientèles dans les communautés chrétiennes qu'on redécouvre, y compris les Grecs, les Arméniens qui vont subir des massacres, les Arméniens vont subir un génocide aussi. Tout ça est cataclysmique après, hein. Mais certainement, ce qui fait démarrer l'Europe, ce qui fait bouger la pensée théologique chrétienne, qui, à mon avis, est à la source de tout le renouveau de l'Europe, c'est le contact avec la philosophie arabe et avec la pensée théologique musulmane.
Alors, qui s'est fait
au moment à travers l'Espagne.
Avec l'Espagne.
L'Espagne, et on pourrait rajouter, parce que vous avez un auteur massif qui était juif, qui est Maïmonide,
qui était
espagnol, ou qui était un arabe berbère. On oublie aussi que le judaïsme existait dans toute l'Afrique du Nord avant l'arrivée des Arabes, et qu'ils sont restés, et que même l'Afrique du Nord a servi après de refuge aux juifs espagnols ou hispanisés au moment de la Reconquista complète. Et donc, moi je crois que c'est un minuscule continent qui a pratiqué, il n'y a pas un autre continent qui a pratiqué sans arrêt le contact des cultures. Plus tard, ça va être la colonisation, alors qu'il est de nouveau très brutal, etc. Mais ça a souvent été très pacifique aussi. Il ne faut pas penser que c'était tout le temps guerrier. Puis alors, bon, j'ai une autre ouverture sur une relecture de l'histoire, de dire quand l'Europe pratique de la violence à l'extérieur, c'est le reflet
de ce qu'elle a aussi connu.
De ce que les différents peuples ou les différents royaumes européens s'infligent entre eux.
De leurs conflits infra-européens.
De leurs conflits infra-européens qui sont terribles. Moi, je trouve que c'est un continent guerrier quand on regarde son histoire.
Dès qu'on vous lit, tout de suite, c'est aussi un continent de violence. Enfin, ce n'est pas du tout minimisé. On n'est pas seulement... Ça revient souvent. Et c'est aussi un autre angle de votre approche qui a énormément d'importance pour les conflits. Ces conflits, d'abord internes, infra-européens, que ce soit dans l'histoire ou bien aujourd'hui encore. Comment ils peuvent se répercuter ou bien comment on peut les retrouver en écho à travers l'histoire. Donc, c'est tout le rapport de l'Europe au reste du monde,
tout à fait.
Par sa puissance.
Moi, j'arrive à, si vous voulez, j'ai essayé de faire un tri dans ces grandes stylisations historiques que je critique ou que je déconstruis. Je dis oui, il y a cette face guerrière que j'appelle face sombre et dont, si vous voulez, le summum va certainement être le génocide des communautés juives d'Europe, des Européens du temps du nazisme, qui est l'horreur absolue. Et puis, il y a la face glorieuse de l'Europe. Et je trouve que l'Europe oublie sa face glorieuse parce qu'elle s'est laissée prendre au piège de la méga-identité occidentale où on pense toujours contre l'autre extérieur, où on a peur de son déclin, où on a peur d'être agressé par l'extérieur. Mais la face glorieuse de l'Europe, elle est colossale. Et aujourd'hui, moi, je suis très dérangé parce que je trouve que les Européens ont beaucoup plus... Enfin, les États européens ont tendance à oublier leur face glorieuse. Et quand je revois des contingents de soldats européens qui se crapahutent en Afghanistan, en Mésopotamie, un peu partout dans le monde, je dis, mais attention, est-ce que nous n'avons pas un retour de fièvre guerrière, même si souvent, bon, le chapeau est nous allons pacifier, nous allons lutter contre le terrorisme. Ça, c'est un, à mon avis,
c'est un
des gros
problèmes.
Vous mettez
très en garde contre ces conflits.
Ah oui, où l'Europe se laisse entraîner par le déploiement de puissances américaines dans le monde. Et l'Europe sert de base arrière.
les choses vont peut-être changer.
Avec le président Obama, tout le monde l'espère.
Mais en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, pour l'instant...
C'est tout le rapport aux États-Unis aussi qui vient à la fin
très,
de l'ouvrage.
À la fin de l'ouvrage est très, très pertinent. Vous avez une formule choc, là vous parliez de la partie positive de l'Europe, bien sûr de ce destin exceptionnel qu'on minimise, qu'on oublie ou bien qu'on valorise en oubliant autre chose.
Ou qu'on marchandise parfois quand il
bien sûr.
Que je parle de la musique.
Oui, voilà. Et alors votre formule c'est comment est-ce qu'on est passé de Mozart à Hitler ?
Voilà.
Quand même c'est...
Oui, de la phase glorieuse, du sommet de la phase glorieuse qui est la musique baroque. J'estime que l'Europe, alors là...
Là vous y voyez une unité...
Ah oui, non, mais là je pense que l'Europe peut dire et répéter au monde entier, personne n'a fait mieux que moi. L'opéra, la grande musique symphonique, la variété, le langage universel qu'est cette grande musique et qui est bâtie aussi sur des formules mathématiques très savantes. Hein. Vraiment, moi, je reste ébloui. Alors, dans d'autres civilisations, ont des architectures qui peuvent être égales de l'Europe. Je pense que même que la peinture chinoise et japonaise, très différente, mais aussi, elle atteint un certain sommet. C'est pour ça que j'ai pris la musique. Bien que la peinture, on pourrait aussi me dire « Ah, mais la perspective, c'est nous, les Européens, etc. » Mais moi, j'ai trouvé que la musique, et en plus la musique, elle a été le langage universel de l'Europe qui est venu remplacer le latin. On ne peut plus parler d'Europe, des élites, à partir du moment où, avec le protestantisme, d'ailleurs, là, c'est les révolutions protestantes, mais sont des révolutions poupérusses, mettre les textes religieux dans les langues, les différentes langues des peuples européens. Donc le latin cesse d'être une langue d'élite. Bon, la Renaissance va le faire renaître encore. Le latin va briller de tous ses feux, avec Erasme et d'autres. Mais puis après, c'est les langues nationales. Et les langues nationales font disparaître l'usage du latin, même au niveau des élites. Ou alors vous êtes un savant. Bon, la musique vient remplacer cela. La musique est un langage qui se comprend partout. Et c'est tout à fait exceptionnel, parce que la musique, tout le monde en fait. Dans la plus modeste chaumière paysanne, comme à Versailles, on fait de la musique. Moi, je suis fasciné, je reste fasciné. Je pense que la face glorieuse de l'Europe, c'est la musique, c'est le langage musical. Quand vous avez un sommet qui est en même temps philosophique, qui est la flûte enchantée, parce que le livret de la flûte enchantée est très riche, et les thèmes sont les uns plus beaux que les autres. Et puis ensuite, alors je fais la comparaison, je dis, mais on en arrive, tous les musiciens finalement sont fascinés et veulent mettre en musique la damnation de Faust de Goethe. Et je pense que Goethe a fait un détournement de la légende de Faust, parce que la légende de Faust, il n'y a pas de pacte avec le diable. On ne peut pas se sauver d'un pacte avec le diable. Goethe a voulu concilier les deux faces de l'Europe et dire non, il peut y avoir une fin heureuse. Et il a mis Marguerite, qui évidemment donne encore une dimension nouvelle avec l'amour. Et puis finalement, Faust finit par se sauver. Non, on ne se sauve pas d'un pacte avec le diable. Et je pense que justement... Ce qui s'est passé, le nazisme, c'est un pacte avec le diable, par exemple. On ne se sauve pas d'un pacte avec le diable. La damnation de Faust annonce déjà des pulsions, que je pourrais dire des pulsions de mort, un retour de façon. Le romantisme, qu'on a beaucoup idéalisé, est une pulsion de mort, quelque part, aussi. Il a produit des chefs-d'œuvre, y compris en musique, il a produit des choses extraordinaires. Mais le fond philosophique, mystique du romantisme va mettre en place, après les grandes querelles qui vont mener à la Première Guerre mondiale, puis à la Seconde Guerre mondiale, et ce sont les querelles qui font le tour du monde, qui partent en Russie, et qui font cette division entre les slavophiles et les occidentaux. Et elle va partir partout. Et aujourd'hui, comme dans tout ce qu'on appelle les sociétés musulmanes, vous retrouvez les partisans de la tradition, du mysticisme, du maintien de la religion au centre de la société, et puis tous ceux qui disent « Non, non, on marche avec le progrès ». Et la démocratie, c'est pas mal, et l'individualisme, c'est pas mal.
Le mythe est vivant.
Le mythe reste vivant. Moi, je crois que l'Europe a mis en place, en même temps qu'elle se modernisait, et de façon tout à fait inconsciente, il y a eu l'expression de tous les tourments que la modernisation peut provoquer dans une société, et qui produit du terrorisme. La société se met à produire du terrorisme à ce moment-là.
Georges Cormes, comment entre-t-on dans la construction du mythe ?
À partir du moment où l'industrialisation de l'Europe devient un fait irréversible, où ce qu'on appelle les terroirs européens sont totalement bouleversés, des populations des campagnes, exode rural massif, des prolétariats urbains exploités, vivant dans des conditions de misère insupportables, décrites par Marx, par le docteur Villermé en France, dénoncées par l'Église catholique. Il y a un dégât irréversible. Le romantisme, comme je le disais, va avoir la nostalgie des terroirs anciens. Vous allez avoir la pensée qu'on pourrait dire progressiste et modèle hegelien. Non, mais tout ça, ce sont des ruses de la raison. En fait, l'histoire a bien un but. Toutes ces souffrances ont un sens. Et c'est la raison qui triomphe, qui s'incarne dans l'État. Et évidemment, la raison, elle est chrétienne. Elle est monothéiste. Thème que Weber va reprendre après et développer pour magnifier le côté protestant. Et là, nous rentrons dans le mythe, la construction d'un mythe. Et moi, je suis toujours très étonné du respect qui entoure Hegel, comme du respect qui entoure Nietzsche, qui lui va jouer à l'anti-Hegel un petit peu après, exaspéré par l'esprit de système. Il va vouloir casser la maison philosophique. Alors, je crois que l'Europe développe
elle est
cette
capable
pensée
de ça
systématique.
Aussi, de développer un esprit critique.
Ah oui, alors il y a eu d'abord le marxisme, qui a été, mais qui est une critique à l'intérieur du système. Parce que finalement, aujourd'hui, à mon sens, nous restons très imprégnés d'hegelo-marxisme. D'ailleurs, on a vu quand l'URSS s'est effondrée, voilà, l'histoire reprend son cours, c'est la fin de l'histoire, nous y arrivons, etc. etc. Pensée de type eschatologique, ce que j'appelle la sécularisation de l'eschatologie. C'est Bossuet sécularisé. Et le discours sur l'histoire universelle, moi j'adore lire ça. C'est un texte d'une qualité littéraire. Mais Hegel, c'est pas mieux que Bossuet, simplement. C'est écrit avec des termes moins imprégnés de religion. Mais la religion, elle est très présente. Et je dis, contrairement à l'idée qu'on en a, le 19e siècle est un siècle qui est hanté par Dieu, peut-être plus que les autres. Et donc, au 19e siècle, si vous voulez, les cultures, les différentes cultures européennes gardent des spécificités fortes, mais elles sont traversées par des courants transculturels partisans du progrès, de la modernité. Et les Allemands vont appeler Occident cette Europe anglaise, française et latine. Ils vont dire, ceux-là, ils sont rentrés dans l'individualisme, dans la démocratie. Non, ils n'aiment pas ça du tout. Mais, si vous voulez, cette vision allemande des choses, elle est partagée par beaucoup d'autres Européens. En France, vous avez la moitié de la France qui n'est pas républicaine du tout, qui partage cet avis. Donc, et c'est pour ça que je dis, on ne peut pas dire, on ne peut pas culpabiliser la culture allemande, parce que ça devient un clivage transculturel qui s'est exprimé par des grands systèmes philosophiques.
Les constructions hegéliennes, merci.
Bon, et quelqu'un comme Renan était complètement fasciné. Après, vous allez avoir la pensée allemande, alors beaucoup plus dangereuse, mais qui va avoir ses partisans partout, dont Ernest Renan, la division entre sémites et ariens, alors qui, elle, ouvre la voie, à mon sens, véritablement, après, au racisme pur qui va s'exercer à l'encontre des Européens de confession juive, qui est une catastrophe. Et là, nous ouvrons la voie des pensées philosophiques fermées sur elles-mêmes, qui sont totalitaires et qui ont été dénoncées par un autre auteur que j'aime beaucoup, qui est Karl Popper, qui dénonce même Platon, peut-être qu'il exagère là, mais dénoncer Hegel, moi je suis d'accord. On ne peut pas fermer le système de cette façon. De même que Weber va parachever la fermeture en disant « notre religion n'a rien à voir avec les autres religions ». Et l'islam est totalement absent, on parle de monothéisme. On ignore totalement le troisième des monothéistes, qui est l'islam, et qui reconnaît les deux précédents, en plus.
Et qu'il y en a une idée fausse. Enfin,
oui, on ne veut donner aucune crédibilité aux grandes constructions des religions indiennes, chinoises, japonaises, du confucianisme, du taoïsme, du shintoïsme, du bouddhisme, des formes diverses et variées. Personne ne regarde tout ça. On est convaincu qu'il y a une supériorité absolu du monothéisme. Et il y a un problème de société monothéiste dont je parle, et je pense même, et c'est un ami qui est un des plus grands écrivains de langue arabe libanais qui m'a attiré l'attention, il m'a dit, mais ton histoire d'Orient-Occident, c'est Caïn et Abel. On est donc dans l'archétype biblique. Et je pense que c'est dans les deux précédents ouvrages où j'ai dénoncé cet archétype biblique. Un peuple choisi, élu pour porter la bonne parole à l'humanité et qui a ses prophètes. Les grands nationalistes modernes n'ont fait que européens n'ont fait que reprendre cet archétype en laïcisant le langage. Et le fonctionnement de l'archétype est toujours le même. Nous ne nous sommes pas débarrassés de cet archétype. Et donc nous sommes rentrés dans ces périodes d'agitation très fortes qui mènent aux deux guerres mondiales et qui nous mènent, une fois l'URSS abattue, à la stupide théorie de la guerre des civilisations. Les civilisations ne peuvent pas se battre entre elles, ça n'a aucun sens. C'est des États qui se battent entre eux. Et donc quand on dit guerre au terrorisme, ça n'a pas non plus de sens. On a déployé des armées dans le monde entier, on a donné une importance démesurée au terrorisme, qui est un phénomène ultra gênant qu'il faut combattre. Mais ce n'est pas le déploiement d'armées qui combat le terrorisme. C'est...
Mais qu'est-ce qui peut le combattre ?
Ah ben, c'est la recherche des malaises sociaux qui donnent lieu au terrorisme. Et le malaise social, il peut être aussi, et dans le cas, si vous voulez, du Moyen-Orient, il est aussi la présence d'armées étrangères qui sont venues s'installer, qui ont désintégré l'Irak, par exemple. C'est l'occupation de territoires aussi par Israël, en infraction aux résolutions des Nations Unies.
Vous avez un chapitre sur la justice internationale.
Tout à fait, aussi. Oui, les deux poids, deux mesures, ça provoque des énervements. Et donc, à la limite, attention à ne pas mésinterpréter mes paroles, mais quand vous avez des déstructurations sociales massives, produites par le progrès, par la technologie, par ceci, par cela, comme l'Europe l'a connu. Vous avez deux types de réponses. Vous avez des régimes totalitaires ou dictatoriaux forts, parce qu'il y a aussi la nuance à faire. Mussolini n'est pas Hitler et Franco n'est pas non plus Hitler, même s'il a été très violent dans la guerre civile espagnole, n'est-ce pas ? Ou bien vous allez avoir, et ça a été le cas russe et balkanique, le terrorisme. Vous allez avoir aussi le terrorisme que tout le monde a oublié, des années 60-70, de l'extrême gauche de différents pays européens.
Ça fait un action moment qu'on directe, vit avec, on va dire, avec action. Le terrorisme en Europe.
Oui, puis vous avez encore les poches de terrorisme basque. Et souvenez-vous d'Action Directe, de la bande d'Abader, des brigades rouges italiennes, c'était assez effrayant. Bon. Évidemment, alors contre un régime totalitaire, oui, il faut faire une guerre de type militaire, ce qui s'est d'ailleurs passé finalement, parce que Hitler n'a pas donné le choix d'un accommodement pacifique. Mais quand vous avez une société déstabilisée qui produit, moi je les appelle des groupes millénaristes, qui ont des idéologies folles, qui sont le produit des déstructurations sociales, que vous soyez le fils d'un aristocrate ou d'un riche séoudien ou un pauvre d'un taudis à Casablanca ou au Caire, ça n'a pas d'importance. C'est la déstructuration de la société, un énorme malaise qui produit ces groupes de gens qui sont prêts à partir, sacrifier leur vie et faire n'importe quoi, et tuer le plus grand nombre de gens possible. On ne déploie pas des armées pour lutter contre ça. Au contraire, ça c'est une façon de multiplier le nombre de candidats à pratiquer l'action terroriste. La débilité des justifications américaines de l'occupation de l'Irak qui dit « Ah, mais comme ça, nous attirons les terroristes du monde entier en Irak ». On est arrivé à des degrés
de justification
d'idiotie intellectuelle qui est assez incroyable.
Vous pensez que c'est le signe d'une crise culturelle ? Cette incapacité à...
Non, je pense, alors moi, je reprends... Avoir, Vous avez raison de parler de crise culturelle. Moi, j'ai beaucoup repris Hannah Arendt,
oui.
Qui, à mon avis, reste d'une actualité énorme, totale. Et elle parle de ces failles à partir du moment où les éléments de légitimité de culture se sont effondrés et qu'il faut reconstituer d'autres éléments de légitimité. Vous êtes dans une faille. Et là, il peut se passer n'importe quoi.
C'est le moment grand désordre.
Je pense que l'effondrement de l'URSS a créé ce mouvement de faille. Parce que, si vous voulez, cette confrontation Est-Ouest, qui était dure, qui était bon, mais elle donnait de la légitimité aux uns et aux autres. Une fois ceci effondré, on a trouvé cette théorie de la guerre des civilisations qui n'a pas beaucoup de sens. Mais on n'a pas reconstitué aujourd'hui, face à une mondialisation qui vous crée des méga-identités, qui vous crée une couche de super bureaucrates du secteur privé, comme des organisations internationales, comme des élites qui gouvernent le monde occidental, qui dirigent le monde. Mais en dessous, il n'y a rien. En dessous, il y a une société de consommation consumériste qui avait été dénoncée il y a déjà très longtemps. Je pense toujours à Jean Baudrillard, par exemple, que tout le monde oublie, la société des objets. Bon, on ne fait pas une culture avec une société des objets. Ce n'est pas parce qu'on change téléphone portable tous les ans ou tous les ans et demi qu'on a fait une culture. Une culture de la consommation, ce n'est plus une culture. C'est l'inverse de la culture.
Mais alors l'Europe est-elle prisonnière de son image et de ses représentations ? D'occidentalité.
Ben, écoutez, mais je pense que l'Europe est très vivante, qu'il y a de tout en Europe. Et l'opinion européenne aussi, elle est très vivante. Malheureusement, l'image que l'Europe donne d'elle-même est très figée par les médias.
D'accord, ça c'est autre chose.
Ah oui, c'est encore autre chose. Il y a un viol des foules, pour reprendre le titre d'un ouvrage célèbre, qui se fait à travers les médias. On n'a plus besoin d'un Hitler qui délire sur la place publique pendant des heures. Les médias, ça vous suit sur ça tous les soirs, tout doucement, tranquillement. Et là, ça vous empêche. Il y a un desservelage qui est pratiqué. Et moi, je regarde aussi avec tendresse.
Mais est-ce que vous pensez qu'il y a une crise de la culture, j'allais dire européenne, mais européenne ou autre, de ceux qui...
Écoutez, il y a toujours des choses de grande qualité qui sont produites. Ici ou aux États-Unis. Mais la pensée critique, si vous voulez, qui, elle, fait la force d'une culture, la pensée critique, elle est marginalisée dans tout ce qui est espace public. Et aujourd'hui, je considère les médias comme espace public. Et je pense qu'il faut réfléchir sérieusement à séparer l'espace public de l'espace privé. Et donc, les médias étant un espace public, il faudrait leur faire des codes de conduite, il faudrait leur faire des règles beaucoup plus claires.
Mais est-ce que c'est une question de visibilité pour les grandes questions que les médias oublient ou questions narcissiques, vous parlez beaucoup
de cet effet pervers de nos sociétés. Moi, je trouve qu'il est beaucoup plus dans les milieux des décideurs. Moi, même à un moment, je dis, ils sont autiques, ils n'écoutent plus. Ils ne voient pas le monde. D'ailleurs, certes, en France, les présidents français ont des traditions de descendre, visiter, aller dans des usines, aller au bistrot. Mais c'est une exception française. Hein. En général, tout ce beau monde vit dans ses bureaux luxueux, sans contact avec le pays réel. Chez moi, au Liban, je dis, nos dirigeants, souvent, c'est des touristes dans leur propre pays. Dans beaucoup de pays, c'est un phénomène universel. Et on a remplacé tout ça par cette idéologie de la mondialisation qui fait dire « Ah, c'est formidable la mondialisation, c'est le progrès continu, nous revenons à cette idée du mythe et d'une finalité de l'histoire, d'une espèce d'historicisme contre lequel il faut se battre. » Et puis, on a mis de côté l'éthique complètement. Et on l'a vu avec la dernière grande crise économique, bon, à part M. Madoff qui est en prison, heureusement. Enfin, il n'est pas le seul coupable de ces milliers de milliards de dollars.
Comment expliquez-vous le repli sur le religieux de ces méga-identités ? Et à quoi peut-il conduire ?
Je pense que le repli, si vous voulez, le repli sur le religieux dont on parle tant, est fonction de deux phénomènes. Un, la méga-identité. Une fois que vous avez débité le mot Occident 25 fois, vous allez vous chercher une identité. Et comme on vous dit, oui, on n'est plus qu'une seule Europe, on n'est plus français, italien, allemand, etc., bon, vous allez vous replier sur une identité encore plus primaire, entre guillemets. C'est-à-dire, vous allez reprendre, ah, mais moi, oui, c'est vrai, je suis protestant, ou je suis juif, ou je suis catholique, ou je suis d'une famille algérienne, et donc je reprends des racines musulmanes, et je refais de la pratique religieuse musulmane. On compense, n'est-ce pas ? Donc, vous avez ça d'un côté. D'un autre côté, je pense que la montée des inégalités sociales, pas légitime. Au 19e siècle, bon, un chef d'entreprise qui créait une nouvelle entreprise industrielle, qui vous faisait un chemin de fer, etc., sa fortune était légitime. Aujourd'hui, c'est fortune faite en bourse, faite par la spéculation foncière, financière, boursière, sur les marchés de champs. Elle est illégitime. Absolument illégitime. Et on continue de nous abreuver de ces histoires obscènes. Des bonus de traders qui coûtent des milliards de dollars de façon indécente, n'est-ce pas ? Alors les gens, face à ce trou d'éthique, ben le religieux leur donne l'éthique. Et souvent, je vois chez nous, dans nos régions, quand on dit l'islam c'est la solution, à quoi pensent les gens ? Ils pensent à la notion de justice en islam. Et je pense que du côté aussi, du côté chrétien, il y a énormément d'éthique dans le christianisme. Il y a une série d'encycliques papales tout à fait extraordinaires qui a commencé avec Rerum Novarum, et qui se renouvelle à chaque fois, qui dit attention, l'économie n'est pas une fin en soi. La fin en soi, c'est l'homme. L'économie doit être au service de l'homme. Or, aujourd'hui, vous êtes en face d'une machine folle. n'est-ce pas, où l'économie écrase tout, où c'est toujours les plus pauvres qui payent les pots cassés des erreurs des plus riches, lesquels continuent de s'enrichir de toute façon. Donc, quelque part, il y a des expressions de refus. Alors, à la limite, on peut dire, bon, le repli sur le religieux est mieux que le terrorisme. Mais ça peut être aussi un conduit vers du terrorisme. D'ailleurs, aux États-Unis, vous avez des éléments d'extrême droite qui refusent l'État fédéral, qui considèrent l'État fédéral comme un pays qui leur prend leur argent, qui ceci, qui cela, qui ont fait un attentat à Oklahoma effrayant, effrayant. Il faut rétablir des règles de conduite morale. Sinon, une culture ne se bâtit pas sur l'immoralité. Elle peut donner des aspects sympathiques, mais lorsque la société fonctionne sur des principes, la philosophie des Lumières a fait fonctionner...
Sur le savoir-vivre ensemble.
Sur le savoir-vivre ensemble, sur un certain cosmopolitisme. J'adore ce terme de cosmopolitisme. La langue française a été la langue cosmopolite, par exemple. Aujourd'hui, elle est détrônée par l'espéranto, qui est cet anglais dégradé que tout le monde pratique, et par la démultiplication. Dans le temps, il n'y a pas longtemps, avec mes étudiants à Beyrouth, dans mon séminaire, j'ai dit, dans le temps, on sortait de Normale Sup, on pouvait devenir un très grand banquier. Georges Pompidou a été le grand patron de la banque Rothschild, normalien. Que de carrières se sont faites. Les grandes carrières se faisaient par la culture. Aujourd'hui, les grandes carrières se font, il faut être... Bon, heureusement, il reste l'ENA, que tout le monde critique en France, où on acquiert quand même de la culture. Et puis, vous devez sortir d'une école de commerce, ou de management, ou d'un MBA. Bon, c'est absurde, c'est complètement absurde. Donc, c'est l'aspect dérangeant du monde actuel.
Avec peut-être une faillite future des élites.
Oui, moi je pense qu'il y a une faillite future des élites, c'est bien évident. Et même ces conflits qu'on a un peu partout dans le monde... C'est les retombées des éruptions volcaniques de l'histoire européenne elle-même.
De ces conflits infra-européens.
Oui. Ben, vous prenez un Bokassa, si quelqu'un se souvient de Bokassa, qui se faisait sacré empereur. Bon, c'est l'épopée napoléonienne qui a marqué Bokassa. Dans nos sociétés où vous avez une tension très forte, parce que les marxistes ont disparu du paysage comme partout, donc la tension elle est très forte entre une partie de l'opinion qui veut un islam pur et dur, authentique, qui reviennent au passé, et un islam moderne. Et la tension est très très forte, les opinions publiques sont cassées en deux, un peu partout. Et ça se surajoute sur les questions communautaires entre sunnites et chiites, avec les États qui prétendent incarner des communautés religieuses. C'est affreux, l'Iran prétend parler au nom du chiisme, l'Arabie saoudite au nom du sunnisme, alors que la doctrine d'islam qu'elle pratique n'est pas vraiment la doctrine sunnite.
Est-ce que vous pensez que
l'État d'Israël veut parler au nom du judaïsme?
Pour finir, Georges Korm, est-ce que vous êtes optimiste?
Vous avez quelqu'un qui pratique la pensée critique, qui pratique une autre lecture de l'histoire. Il ne s'agit pas d'être optimiste ou pessimiste. Il s'agit de préparer pour des générations qui vont venir la possibilité intellectuelle de construire un monde meilleur. Donc, la notion d'optimisme, pessimisme, je ne l'aime pas. Aujourd'hui, avec les faits que nous avons sous les yeux, il est très difficile d'être optimiste. Mais par contre, si on arrive à travailler plus la pensée critique... On peut penser que la génération qui va venir, et vous avez beaucoup de jeunes qui refusent la société consumériste, qui refusent les déploiements guerriers dans le monde au nom de « on va sauver la démocratie » ou les valeurs individualistes ou les valeurs judéo-chrétiennes. Beaucoup de gens ne rentrent pas dans ce jeu. Et cela, c'est un espoir pour l'avenir. Vous avez tous les mouvements altermondialistes, vous avez énormément de choses, donc c'est des graines pour l'avenir. Ce qu'il faut espérer, c'est que nous n'allons pas avoir besoin d'une troisième guerre mondiale ou quatrième guerre mondiale pour reconstruire un monde meilleur. Dans la mesure où les fantômes des deux premières guerres continuent de nous hanter. Le fantôme de la guerre froide s'est réincarné dans cette guerre de civilisation judéo-chrétienne d'un côté, arabo-musulman de l'autre. Je crois qu'il faut tout faire pour éviter qu'il y ait de nouveau une guerre massive qui fera qu'ensuite on se dira « Oh là là, qu'est-ce que nous avons fait ? On était complètement fous, on va reconstruire mieux qu'avant. » Ce qui a été fait après 1945, mais pendant quelques années. Et puis ensuite, on a eu cette montée de mondialisation qui n'est pas nouvelle. Le phénomène de Christophe Colomb, Hamilton Friedman ou à d'autres néolibéraux conservateurs, Margaret Thatcher, c'est le même combat, mais cette mondialisation-là, non, elle n'est pas bonne, c'est clair. Il va falloir qu'elle change.
Donc vous appelez à une fécondité nouvelle des sciences humaines pour, comme bonne antidote.
Vous avez raison, c'est-à-dire que
pour finir ?
Pour finir, je dis, mais enfin, dans toutes ces sciences humaines, cette opposition Orient-Occident stérilise la pensée. C'est terrible. Donc le jour où on pourra faire tomber, cesser de dire en Occident ça se passe comme ça, en Orient c'est comme ça, ouais. C'est de dire comment se comportent les sociétés humaines, qu'elles soient d'Occident ou d'Orient, ou d'Extrême-Orient ou de Moyen-Orient. Ça suffit. Ça suffit. Et je vois combien les thèses d'étudiants partout sont...
Il y a toujours ces cris, encore.
Oui. On parle du sexe en Occident, on parle de ceci en Occident, on parle de cela, mais en Orient, mais ça suffit. Et vous savez, moi, j'ai été, dès ma jeune enfance, cette histoire de nous, les Orientaux, et eux, les Occidentaux, je ne l'ai jamais supporté. J'ai trouvé que c'était tellement artificiel. Moi, mon système de classement de mes amis... C'était pas celui-là est français, celui-là est musulman, celui-là est juif, celui-là est italien, celui-là est égyptien, celui-là est libanais. C'était, il est sympa ou il est pas sympa ? Il est généreux, il est intelligent. Je me suis jamais posé la question. Après tout, s'il est juif, oui, je n'ai aucun problème. S'il est musulman, j'ai encore moins de problèmes. S'il est chrétien, je n'ai pas de problème du tout. Vraiment, ces systèmes de classement sont assassins. Et récemment, j'ai écrit un texte qui s'appelle « Altérité, connaît pas ».
C'est clair.
C'est clair. Alors, il y a l'altérité sociale est très forte. Et tout le monde l'oublie. Et si vous voulez, entre quelqu'un comme moi, qui sait lire, écrire, qui a ce luxe extraordinaire de réfléchir, de pouvoir écrire, et un malheureux analphabète qui travaille à balayer les rues, ça, c'est l'altérité. Ou SDF en France, quand je les vois. C'est ça, l'altérité. C'est pas le fait qu'on est juif, chrétien, musulman qui est une altérité. Cessons de nous raconter des histoires pour ne pas voir les vrais problèmes. Et pour ne pas nous occuper de la vraie altérité qui sont ces... Vous avez eu le sommet mondial de l'alimentation, 1 milliard 200 millions de personnes qui sont mal nourries. Peut-on accepter cela ? C'est ça pourquoi il faut se battre.
Alors Georges Cormes, merci de contextualiser toutes ces grandes questions. On voit que votre culture et vos expériences d'économiste, d'historien et d'homme cultivé nous permettent d'y voir un peu plus clair. Et je renvoie nos auditeurs à la formidable lecture de L'Europe et le mythe de l'Occident qui nous invite à de très nombreuses interrogations. Merci Georges Cormes.
Merci à vous.